la condition des femmes dans tous les temps, dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion que, au lieu de leur dire bonjour, on devrait plutôt leur demander pardon, tu sais, en fait. Puis, en lisant ça, je pense que quelqu'un qui a vraiment étudié l'histoire du féminisme ou l'histoire des femmes en général, je pense qu'on on est à même de leur dire. Alors, Thio et Claudel,
ouais, mais
je pense que
c'est des paroles qui font un déclic dans la tête. Je veux dire, quand tu lis ça, tu te demandes, OK, pourquoi demander pardon? Puis après ça, ça te rappelle plusieurs trucs. T'sais, on peut parler, entre autres, de l'oppression par rapport à l'équité salariale ou peu
puis
importe.
Une idée qui nous vient tout de suite en tête, c'est quand on pense à tout ce que l'homme a pu faire d'horrible, ben il y a une minorité encore plus facilement exploitable que, je veux dire, les hommes en général, puis c'est les femmes, puisqu'ils ont toujours été, violentées. Donc, on va prendre l'esclavagisme qui a affecté autant les hommes que les femmes, mais ça a dû affecter encore plus les femmes, parce que c'était justement dans l'idéologie dominante, ben les femmes étaient inférieures et on pouvait en faire pire.
Oui, la violence est toujours là, je pense. Là. Je veux dire, les femmes vivent encore des situations de violence conjugale, quoi, c'est ça, mais la violence est ailleurs aussi. Tu sais, quand on parle juste, mettons, de GHB, tu sais, t'es dans un bar, t'es avec, mettons, tes amis, majoritairement hommes, mettons. Tu laisses tous les hommes vont fumer dehors, laissent leur verre sur la table. Mais toi, tu sais, c'est une violence aussi d'avoir à traîner ton verre puis à y penser, tu sais, puis à tout le temps te sentir harcelé dans le fond par cette idée-là. Tu sais, je veux dire, la violence se retrouve partout, elle n'est pas nécessairement physique non plus.
C'est une menace latente permanente.
Oui, c'est ça, permanente. Tu sais, pour moi, en tout cas, je suis quand même inquiète quand je marche dans la rue le soir. C'est pas normal. Tu sais, c'est pas normal.
C'est pour ça que je pense qu'il y a un des. Ce vers quoi, tant le féminisme, en fait, pas nécessairement le féminisme au complet, mais une bonne partie, c'est dans le fond la fin de la différenciation des genres, parce que je crois pas qu'il y ait vraiment à considérer, hormis quelques spécificités biologiques mineures, qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Puis encore là, comme tu dis, je veux dire, on a tous le même potentiel créatif, le même potentiel de force. On a tous le même potentiel dans l'absolu. Alors, je vois aucunement pourquoi les garçons, c'est bleu, les filles, c'est rose. Puis, autant de différenciation dans la langue qui est faite pour inférioriser la femme, pour la contraindre à une certaine idée qu'on s'en fait, qu'on s'en est fait, puis qu'on continue à se faire. Pour en finir avec ce mythe-là.
Oui, exactement. Puis, pour citer Judith Butler, je pense que le genre est une performance qui est culturelle. Donc, c'est... C'est une pratique qui est apprise dès l'enfance, apprendre des comportements ou des réactions vis-à-vis si on est un homme ou une femme.
Puis les gens qui défendent ces identités-là, puis qui les crient sur la scène publique, comme les radios poubelles en général, dans les médias ou toutes les gardiens de la moralité, c'est du monde qui se pose même pas cette question-là, parce que de toute façon, ils ont intérêt à ce que les gens maintiennent le mythe, justement, de ces identités-là, où est-ce que la femme est faible, soumise, dépendante, puis tout ça. Puis, tu sais, ce qui est le plus dommage dans tout ça, moi, ce qui m'affecte le plus, c'est de voir des femmes, parfois, le croire puis l'intégrer, donc.
Puis, tu sais, on se dit que c'est plus d'actualité. Je veux dire, le combat s'est déroulé il n'y a même pas 20-30 ans. Puis j'ai encore entendu de mon vivant des gens, des filles dire que c'était naturel que leur chum gagne plus qu'elles, sans m'apporter aucune raison, sans aucun argument. C'est vraiment inscrit dans leur tête, puis il faut en finir avec ce mythe-là.
Ben moi, j'ai plus tendance à être un féministe radical. Je pense que, entre autres, le féministe a sa raison d'être, parce que tant qu'il y aura un système capitaliste, parce que comme Jean-Martin il a dit exactement le mot intérêt, ils ont intérêt à garder les femmes au service des hommes en général, puis à garder cette oppression-là envers les femmes. Ça sert le système capitaliste, exactement.
Puis même les femmes chefs d'entreprise ou les femmes premières ministres, ça va pas changer le fait que c'est la structure qui est l'héritage d'une société patriarcale avec, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais parfois je pense que il y a en fait le féminisme met de l'avant l'égalité homme-femme, tandis qu'il y a certaines on peut mettre de l'avant les femmes au pouvoir comme des avancées féministes, mais je pense que
L'oppression reste là,
puis c'est pas parce que une femme est au pouvoir que les femmes vont arrêter d'être oppressées dans les structures économiques puis sociales, puis de la même manière que c'est pas parce que Barack Obama est élu, que les Noirs vont arrêter d'être opprimés. Il y avait un chef de police de New York qui était black, puis ça n'a pas changé qu'il y avait encore des assassinats de blacks.
Puis je tiens à dire aussi, quand on parle de féminisme radical, il ne faut pas se faire peur. Radical, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est d'aller à la racine du problème.
Parce que moi, j'ai eu peur quand j'ai entendu radical. J'ai dit, OK, ils vont-tu mettre des bombes?
Non,
un féministe radical, au contraire, c'est justement, comme Guillaume l'a dit, c'est un féministe qui va à la racine du problème.
Je pense que les féministes l'ont visé depuis longtemps. Le problème, c'est quoi? C'est le patriarcat. Et on a beau avoir autant de femmes au Parlement qu'on veut, le patriarcat tient encore bien parce qu'il n'est pas uniquement déterminé par l'État. Il n'est pas seulement déterminé par qui est au pouvoir, mais c'est une structure qui est plus ancienne que le capitalisme. Puis il faut le combattre. Mm-hmm. Il faut le combattre non seulement dans l'État et la religion, mais il y a aussi la famille, les rapports sociaux, les lieux de travail. Il faut le combattre partout.
C'est absolument. Puis c'est de comprendre aussi peut-être que c'est d'être plus fort ensemble. Il y a déjà tellement de choses qui nous divisent dans la société. Il y a déjà tellement, que tu sois grand, petit, blanc, noir, que tu sois un homme, une femme, il y a tellement d'outils pour diviser que déjà, si les femmes font une lutte en voulant dire, tu sais, on veut pas que ça soit la femme qui domine, on veut l'égalité, on se bat pour l'égalité, on veut agir ensemble, ben c'est ça qui est fort là-dedans, tu sais, c'est qu'il y a déjà assez de trucs qui nous séparent, tu sais, comment il faut se...
Mais quand on parle de s'unir puis d'être unis, je pense qu'il y a quand même parfois une pertinence aux organisations non mixtes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bien, quand on le prend dans son contexte, c'est tout à fait légitime. Je pense que...
Qu'est-ce qu'on entend par...
C'est-à-dire des groupes qui peuvent être formés dans des moments où est-ce que les femmes vont être dans des organisations exclusivement constituées de femmes. Est-ce qu'une de vous deux voudrait l'expliquer plus en détail?
Ben, moi, je vais parler, en fait, je ne parlerai pas au nom du comité du 8 mars, mais je vais parler de mon expérience à moi. Moi, comment je vois la chose, c'est que je trouve que la lutte du féminisme, c'est une lutte qui ne touche pas que les femmes, mais qui doit être prise en main par les femmes quand même. Ça doit être elles qui mènent la lutte. Par contre, je suis pour les comités de travail mixtes, en fait, les comités de lutte, les comités d'organisation, d'action et tout ça. Mais il faut être consciente aussi que cette lutte-là se base sur des réalités sociales, des réalités, puis qu'il faut qu'il y ait un espace où est-ce que les femmes puissent se rencontrer, parler entre elles,
s'exprimer
sans retenue,
puissent partager
leur expérience, puis faire des constats sociaux sur la condition, parce que le féminisme radical, c'est aussi le privé. Dans le fond, le privé est public. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe à la maison? Ce n'est pas que privé. Le personnel n'est pas que privé. C'est public, c'est d'ordre public, c'est un phénomène social. Donc, je suis pour qu'il y ait des espace de travail entre femmes, de réflexion entre femmes, puis de mise au point. Puis je suis pour qu'il y ait un comité de lutte, en fait, qui se fasse avec les hommes, parce que la lutte doit se faire accompagner des hommes.
Oui, donc le comité non mixte sera un outil qui permettra aux femmes de pouvoir s'exprimer sans nécessairement avoir... parce que souvent, la dynamique dans des groupes, c'est que les hommes vont s'exprimer davantage que les femmes, puis ça favorise tout simplement l'opinion de personnes qui s'expriment moins.
Exactement, mais...
En fait, je pense que le but des caucus non mixtes est d'apprendre à prendre sa place, puis à partager ses expériences personnelles pour comprendre qu'on n'est pas toute seule à vivre ça. Puis il y a une structure derrière qui amène à des comportements puis des expériences qui sont partagées par plusieurs femmes.
Je pense qu'on va en rester là pour le moment parce qu'on va rejoindre Blandine qui se trouve à Montréal pour nous partager ses expériences de militante sur le féminisme et bien plus encore. Et mais pour effectuer la transition, on va écouter une chanson du groupe The Clash. Donc, on va tout de suite revenir après. À bientôt.
Thank you.
De retour en ondes sur, à l'émission La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX 95.5. Avant de commencer l'entrevue avec Blandine, on voudrait simplement rappeler les événements qui vont avoir lieu cette fin de semaine, le 8 mars à Sherbrooke. Est-ce que une de vous deux pourrait les énumérer? Je les ai pas toutes pris en note, malheureusement.
Oui, moi je les ai juste ici. Pour faire un rappel rapide, 10h30, brunch à la Chaudronnée, organisé par Concertation Femestrie, puis Aide des femmes de la République démocratique du Congo. 11h30, conférence de presse à la même place. 13h30, notre manifestation, notre marche qui débute à l'Hôtel Dieu avec plusieurs arrêts. 16h30, suite après la manifestation, on se rejoint au RAGE, le regroupement autonome des jeunes, qui est au 101 Bar, juste en haut du salon de thé sur la Wellington. Donc, pour un souper, où est-ce qu'on va pouvoir discuter et tout ça. Puis, à 19h, on se rappelle qu'à la Bibliothèque Eva Sénécal, il y a un visionnement de films organisé par le Comité Femmes de la Fédération culturelle à Sherbrooke. Et que le 10 mars, le film visionnement du film Polytechnique à la Maison du cinéma à 17h30, organisé par le Comité de la condition féminine de la CSN avec un goûter, réservation. Donc, pour rappeler au RAGE, pour s'impliquer dans l'organisation de la marche ou simplement pour avoir des informations sur la marche, c'est le numéro, le 819-542-1045. Et pour le visionnement du film Polytechnique, le numéro est le 563-6515.
Donc, ça va être une journée bien remplie. Oui. À tous le 8 mars prochain.
Et la veille, c'est au Beau Dimanche. Au Beau Dimanche, la veille, ça va être le lancement du Cause commune, le journal anarchiste de l'Union communiste libertin.
Oui, on peut se retrouver à 7h au Beau Dimanche sur la rue Dauphin pour jaser anarchie. Puis on va tout de suite continuer avec...
Blandine.
Donc, salut Blandine.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui,
ben, donc Blandine, on a demandé ta participation à l'émission aujourd'hui pour en plus avoir la perspective que tu voudrais partager avec nous. On a des gens de Sherbrooke qui ont mis de l'avant des activités de conscientisation et de diffusion des idées féministes radicales aussi. Donc, on voudrait savoir, Blandine, comment est-ce que tu t'identifies dans la tendance féministe? Est-ce que tu t'identifies en tant que féministe radicale ou en tant que féministe libertaire?
Tout simplement les deux, en tant que féministe radicale libertaire. Tout d'abord, en tant que féministe radicale pour des raisons qui ont sûrement été nommées par d'autres camarades féministes radicales, c'est-à-dire une analyse d'un système d'oppression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ne pas analyser les inégalités hommes-femmes comme des choses qui arrivent au hasard ou seulement comme les effets des inégalités, mais avoir une analyse de groupes sociaux, une analyse de classe, une analyse selon laquelle toutes les femmes, pour le simple fait d'être femmes, vont subir des discriminations, des inégalités, au-delà des intentions personnelles, c'est-à-dire une analyse globale de la chose. Puis libertaire, puisque pour moi, une vision féministe est indissociable en quelque part d'une vision différente de la société, d'une vision horizontale des rapports et d'une construction horizontale des actions politiques et des activités politiques.
Comment est-ce que cette perspective féministe-là peut influencer les luttes? Comment est-ce qu'on pourrait discerner dans la lutte féministe cette perspective-là? Comment est-ce que des féministes radicales et libertaires peuvent avoir des actions ou de la conscientisation différente de d'autres mouvements féministes qu'on pourrait critiquer pour une certaine réformisme qui tente de changer le système plutôt que de le modifier complètement?
Tout d'abord, c'est important de mettre en perspective qu'il y a plein de tendances dans le féminisme et aussi dans le féminisme libertaire, c'est-à-dire que chaque courant féministe va avoir ses pratiques, ses actions, sa façon d'observer la société puis sa façon de vouloir agir sur la société. Parmi les féministes libertaires, il y a aussi plusieurs tendances politiques et plusieurs modes d'action. le mode d'action que moi, en ce moment, je privilégie. Puis c'est important de préciser en ce moment parce que je pense qu'on a tous des parcours selon dans quelles organisations, dans quelles luttes on s'inscrit. On va avoir des actions différentes. Moi, en ce moment, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Femmes ont faim, qui n'est pas un collectif féministe libertaire en tant que tel, mais dont plusieurs féministes radicales libertaires font partie. On a une vision solidaire des autres mouvements féministes, même les mouvements féministes plus libéraux, les mouvements féministes réformistes qui ont mené des luttes et qui mènent encore des luttes très importantes dont on est les héritières en tant que féministes aujourd'hui, mais aussi avec une volonté d'aller plus loin. Un des aspects d'aller plus loin, c'est aussi voir la quotidiennité des choses, pas seulement en fait, aller au-delà de la sphère publique aussi, puisque notamment une des tendances du féministe plutôt réformiste, ça a été beaucoup de s'attarder à l'espace public, l'accès à l'école, le droit de vote à une époque, etc., qui sont des luttes tout à fait importantes, légitimes, etc., mais on ressent le besoin d'aller au-delà, notamment en affirmant que le privé est politique, c'est-à-dire ce qui se passe dans la sphère privée, pas seulement dans la cuisine, même si c'est important, mais jusque dans la chambre à coucher, c'est tout à fait politique. Qu'est-ce qui se passe, les dynamiques dans les relations interpersonnelles, les dynamiques qu'on vit chacune et chacun, en fait, au quotidien. Donc, la vision qu'on met de l'avant, c'est pas seulement de s'attarder à la critique, à la confrontation. Ça, c'est une tendance qui est importante, c'est super important d'identifier qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qu'il faut changer dans la société et de le combattre, donc d'avoir des revendications par rapport à ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est s'attarder à la création d'autres actions, à la création notamment sur la question de la sexualité. Les Femmes ont faim adressent une autre perspective en disant que ce qu'on veut, c'est créer un autre imaginaire sexuel, c'est-à-dire de se débarrasser au maximum de la pollution qui fait partie de notre intimité, c'est-à-dire que toutes les personnes, on est aux prises avec des fantasmes sexuels, notamment, qui vont être emprunts de la société dans laquelle on vit. Puis nous, on se propose de créer des alternatives, d'autres imaginaires. À ce titre-là, parmi nous, il y a plein d'artistes qui vont amener des perspectives différentes sur la réalité quotidienne des femmes en ce qui a trait à la sexualité, à la sensualité, mais aussi à d'autres espaces de notre vie. Notamment, on a créé un zine dont on a publié deux numéros qui s'appelle « Les plots complotent » avec le jeu de mots de comploter et de se mettre ensemble en tant que femmes à réfléchir à notre réalité, à nos désirs, à nos envies, puis trouver des actions positives pour affirmer quelle société on veut, quelle pratique sociale on veut mettre de l'avant, sans renier du tout l'importance de la confrontation et de la critique, mais en disant que c'est essentiel aussi d'amener des propositions de changements radicaux.
Claudel, je pense que tu avais une question pour Blandine.
Oui, ben, je crois qu'elle y a répondu partiellement, mais je voulais savoir c'était quoi exactement, concrètement, Les Femmes ont faim. Est-ce que ça s'arrête aux revues? Puis aussi savoir c'est né de où, de quoi?
Le collectif des Femmes ont faim s'est réuni après la première rencontre féministe radicale qui a eu lieu en 2003 à Montréal.
OK.
Puis le collectif est basé sur le fait et pas un collectif comme les autres au sens qu'on n'a pas une plateforme politique à défendre, on n'est pas dans un esprit de revendication. C'est des choses que nombre d'entre nous on va faire dans d'autres espaces, que ce soit des espaces politiques, d'autres collectifs, des organisations politiques, dans le milieu communautaire, syndical, au travail, n'importe où. Mais ensemble, qu'est-ce qu'on a voulu créer? C'est se créer un espace qui nous permet de réfléchir à d'autres propositions puis à d'autres choses. C'est pour ça que quand je parle notamment en ce moment, je peux parler de moi, mais je peux pas parler au nom de tout un collectif qui est composé de femmes avec des sensibilités politiques différentes, des visions différentes de la vie et de la lutte politique. Mais ce qui nous rassemble, c'est la volonté de réfléchir ensemble à des propositions. Alors notre expression, puisqu'on se nomme affectueusement entre nous les plots, on dit souvent les plots ne font que tenir salon, mais ça change des vies. puisque ce processus collectif-là n'est pas nécessairement à l'avant-plan de nos pratiques politiques individuellement, mais c'est un lieu de ressourcement qui nous donne de la force puis qui nous donne des idées, de l'imagination pour changer les façons de faire. Je ne sais pas, quand on donne un... Quand moi, je vais aller donner un atelier, par exemple, toutes les réflexions de déconstruction des rapports d'oppression, toute cette réflexion qu'on va avoir entre nous d'imagination va transparaître dans ma façon de donner des ateliers, ça va transparaître dans les actions artistiques de certaines autres. Puis c'est en ça qu'il y a, c'est ça qui nous relie.
OK. C'est une approche assez provocative, si je comprends bien.
Ben oui, en quelque part, c'est une vision assez... Il y a de la provocation sur les sujets de sexualité, mm-hmm. notamment en lisant notre zine qu'on a publié, en fait, juste deux fois. Là, il y a deux numéros. C'est sûr que c'est basé sur l'humour, les jeux de mots mm-hmm. Et le fait de s'amuser, parce que c'est aussi une vision féministe pour nous à défendre dans tous nos espaces de vie et de lutte, que d'amener une pratique autre. Si on est pour reproduire les mêmes modèles oppressants et plates de réunions et de pensées politiques, ben on se dit qu'on déconstruit pas grand chose. Alors il faut que dans chaque sphère, c'est cette imagination là, cette petite subversion de tous les jours, de rire des choses qui nous font chier, des choses qui nous emmerdent, des choses qui nous oppressent au jour le jour, en rire et les tourner en dérision, c'est un peu notre petite action politique quotidienne.
Puis c'est aussi se réapproprier les mots, si je comprends bien.
Oui, c'est aussi se réapproprier les mots, notamment tout le langage autour de l'érotisme, de la sexualité, de la pornographie. C'est décider d'utiliser ces mots-là, d'utiliser cet imaginaire-là, puis de le déconstruire complètement, puis de le remodeler d'une façon qui nous correspond. Cette façon-là, on ne l'a pas, la solution, on ne l'a pas, la vérité, on ne l'a pas. On n'a aucune prétention politique d'amener une vision différente de la société en tant que collectif. C'est plus un lieu de ressourcement qui nous permet d'avoir ces petites actions de subversion provocante entre autres sur le sujet de la sexualité.
Oui, puis tu m'as dit que tu te réclamais également du féminisme libertaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Bien, les courants féministes libertaires, je suis peut-être pas la mieux placée pour faire un cours académique sur le sujet, mais c'est une tendance du milieu anarchiste. Milieu anarchiste qui est aussi traversé par beaucoup de pratiques différentes. Mais en tant que féministe libertaire, c'est une des pratiques politiques les plus visibles. C'est décider d'avoir d'autres dynamiques, par exemple, dans des réunions, dans des rencontres, dans la façon de s'organiser politiquement. Puis décider, par exemple, de ne pas utiliser des méthodes qui ne laissent pas la place à tout le monde, c'est-à-dire d'avoir
autoritaire.
Ben oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. justement, qu'on retrouve tout le temps, que ce soit dans nos assos étudiantes, dans nos syndicats, dans nos réunions de job, les méthodes utilisées pour en venir à des consensus, pour en venir à des décisions politiques, c'est toujours des méthodes qui favorisent la personne qui parle le plus fort, qui favorisent la personne qui a le plus d'arguments. Donc ça veut dire aussi la personne qui a eu le plus accès à l'éducation, la personne qui a eu le plus le temps de réfléchir à ses affaires. Puis, une pratique féministe libertaire, c'est avoir une autre vision, nourrir sa pratique de notre analyse de la société avec, justement, un cadre anti-oppressif. Puis, pas seulement anti-oppressif sur la question des rapports hommes-femmes, mais aussi sur toutes les oppressions, qu'il s'agisse du racisme, de l'impérialisme, du colonialisme. C'est avoir un souci quotidien dans toutes nos pratiques pour avoir les rapports les plus horizontaux possibles.
Oui. On va peut-être s'arrêter ici tout de suite pour aller faire une pause commerciale. Puis je crois qu'on va pouvoir se retrouver tout de suite après pour continuer la discussion. Donc, à tout de suite.
À tout de suite.
Seriez-vous fatigué du froid hivernal? Eh bien, n'ayez crainte, car le Croque-Nocho reste au rendez-vous pour une hausse de chaleur. Sous les rythmes de la musique d'ici ou d'ailleurs, au cœur de l'actualité, ne manquez pas le Croque-Nocho tous les mardis soirs de 6 à 7 avec votre animateur Guillaume Genet sur les ondes de CFNX 95,5.
Jay Félix présente en projection l'album Love Shit de Jason Bayada. Pour cet album, Jason est parvenu à canaliser toute l'énergie émotionnelle qu'il tenaillait. Résultat, une collection de 10 pièces frappantes de sincérité et son meilleur album à ce jour. On écoute un extrait. There's a life out there, but the vacation is harder to plan. I don't blink when I look at you, 'cause I can't let you. Album cathartique pour les cœurs brisés, Love Shit est un portrait vivide d'une relation amoureuse tumultueuse et de sa fin traduite sur de magnifiques mélodies pop. Love Shit de Jason Bayada. Pour émotifs et ceux qui ont le goût de le devenir.
CFNX 95,5 FM. La radio communautaire de l'Estrie.
Oui, on est de retour en onde après cette courte pause. Puis on est également avec Blandine qui nous parlait justement du féminisme, du militantisme féministe, du féminisme radical et libertaire. Donc, tu es toujours avec nous?
Mais oui.
Oui, puis moi, j'apporterais tout simplement le lien le plus simple qu'on puisse faire entre le féminisme puis l'anarchisme, puisqu'on est à une émission de radio qui se veut libertaire. Dans le fond, c'est Suzanne Brown qui l'a amené, puis qui disait que puisque l'anarchisme était une philosophie politique qui est opposée à toute forme de pouvoir, il est donc intrinsèquement féministe. Seulement, comme on disait juste avant, c'est pas nécessairement les militants libertaires qui vont toujours être le plus féministe qui soit, qui nécessite donc certaines pratiques dans les organisations qui vont favoriser l'intégration des femmes en général, puis aussi pour susciter leur opinion. Toi, tu parlais de différentes méthodes. Est-ce que tu en connais d'autres?
Ben oui, en fait, dans les méthodes, justement, la vision qu'on défend aux femmes au sein d'identifier nos désirs, puis qu'est-ce qu'on veut, c'est une vision d'empowerment, en fait, d'appropriation du pouvoir des femmes par et pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on est tellement souvent dans nos organisations politiques, notamment puisqu'on est dans ce sujet-là, on est tellement souvent à être obligé de revendiquer, de confronter sur toutes les attaques qu'on reçoit quotidiennement, à ne pas être reconnu, à devoir parler plus fort pour se faire entendre, à devoir s'excuser de prendre la parole publiquement. Vous remarquerez que je vous invite à faire le petit exercice de regarder quand des femmes prennent la parole publiquement. Elles vont généralement faire une introduction en s'excusant de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez bonne. Puis, justement, la vision de se réapproprier son propre pouvoir, c'est prendre le temps de se demander qu'est-ce qu'on veut. On veut pas avoir peur dans la rue, on veut pas être pressé dans aucune sphère de nos vies, on veut pas devoir subir une sexualité qui est dictée par les hommes et basée sur l'éjaculation et la pénétration, par exemple. On veut pas avoir à se marier pour avoir des droits ou une économie possible. On veut pas, en tout cas, on veut pas plein de choses, et c'est important de dire qu'est-ce qu'on veut pas. Mais c'est aussi important de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on veut, de prendre ce temps-là. C'est sûr que c'est quand on est dans une situation privilégiée qu'on n'est pas nécessairement au quotidien en train de se battre pour combler des besoins qu'on peut le faire. Puis ça, on en a conscience que c'est pas quelque chose qui est possible tout le temps. Mais essayer d'ouvrir un maximum d'espace pour se demander réellement qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi les pratiques qui nous font sentir bien, qui nous font pas sentir oppressés systématiquement? C'est quoi les pratiques qui collectives et individuelles, en fait, qui permettent de changer les choses? Fait que cette vision affirmative-là, elle reconnaît tout à fait le besoin de revendication, puisque c'est la base sur laquelle on travaille en général dans nos vies, parce qu'on n'a pas le choix en tant que féministe libertaire. Mais c'est une chose qui est trop souvent oubliée parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est la dernière chose qu'on a le temps de faire, de réfléchir réellement à des solutions et des méthodes. Fait que c'est une méthode un peu large que je donne là, mais c'est l'esprit général dans lequel on peut appliquer ces choses-là. Après ça, personnellement, dans des dynamiques, par exemple, de réunions et dans des collectifs libertaires, les pratiques que j'ai souvent mis de l'avant avec d'autres camarades libertaires, hommes et femmes, et queer en général, c'est de ne pas diviser discours public et discours politique et émotions, vie personnelle, etc. Des petites méthodes super simples peuvent être appliquées dans nos collectifs, comme au début d'une réunion, on introduit de plus en plus dans beaucoup de collectifs libertaires de faire au début d'une réunion un tour de table qu'on appelle le « comment ça va ». C'est-à-dire que toutes les personnes vont prendre la parole pour peut-être raconter leur journée, raconter qu'est-ce qui vient d'arriver dans leur vie, raconter ce avec quoi elles rentrent dans l'espace de réunion pour que ça soit pris en compte dans la discussion politique qui s'ensuit. Puis aussi de terminer les rencontres avec un « comment on s'en va », on l'a intitulé, ouais. qui est une façon d'évaluer notre processus, c'est-à-dire d'être tout le temps en train de regarder deux niveaux d'activité, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis la façon dont on est en train de le faire. Et souvent, on ne s'attarde pas nécessairement à nos moyens, on s'attarde à nos buts, mais on ne s'attarde pas aux moyens et aux processus qu'on utilise dans nos groupes.
Oui, puis je crois que cette méthode-là permet également aux militants de remarquer quelle partie de leur vie privée est en fait une reproduction des schémas d'oppression qu'on s'attaque justement à dénoncer. Puis ça remet en question beaucoup de nos pratiques, beaucoup de nos habitudes. Puis j'imagine que ce travail-là se fait dans ce sens-là.
Oui, exactement. Puis c'est important aussi que ce travail-là ne soit pas juste pris en charge par les femmes, par les féministes radicales libertaires, parce que c'est souvent ce qui va arriver dans des groupes mixtes qui se revendiquent du féminisme. C'est-à-dire que la tâche va toujours être mise aux femmes de porter toute la charge émotive, de porter toute la charge du processus. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec des doubles, triples et quadruples tâches qu'une militante doit avoir sa pratique politique comme tout le monde, ses idées, ses choses qu'elle va défendre, etc. Puis en même temps, c'est la personne qui va devoir s'attarder aux dynamiques interpersonnelles, aux dynamiques collectives, faire l'analyse. Puis ça se passe dans un couple, ça se passe dans un one night, ça se passe dans un party, dans une réunion au travail. Cette prise en charge du processus finit toujours par reposer sur les femmes. Fait que c'est super
même
important.
Même dans les groupes libertaires, parfois.
Comment?
J'ai dit même dans les groupes libertaires, parfois.
Puis je dirais presque surtout, en fait, des fois, parce que c'est là que c'est le pire, souvent, quand... c'est pas pour des mauvaises intentions. Il s'agit jamais de mauvaises intentions antiféministes. Il s'agit juste de réflexes qu'on reproduit des tendances qu'on a apprises. Là, on a passé souvent... Si on commence à militer vers 18-19 ans, ça veut dire qu'on a 18-19 ans de socialisation à déconstruire. Alors, on s'entend que ça ne se fera pas en quelques jours, ni avec deux, trois méthodes miracles. Mm-hmm. C'est un processus de tous les jours, de se questionner au quotidien, puis de prendre, et les hommes et les femmes, de prendre acte de ce qui se passe, puis à partir de là, d'agir, puis de pas... des fois, on va se tromper, puis des fois, ce ne sera pas la bonne façon, puis on va continuer à chercher... C'est pour ça aussi que la vision féministe radicale libertaire, elle est transversale à tous nos espaces de lutte puis à nos espaces de vie, parce que c'est une façon de vivre et une façon d'agir qui se reflète partout.
Puis qui se base aussi sur l'idée que, dans le fond, la différenciation de genre n'a pas lieu d'être, puis il faut se battre contre justement l'idée que les garçons sont comme ça et les filles comme ça. Puis je crois que c'est une des chevals de bataille du féminisme actuel qui est à ne pas négliger comme il a peut-être pu l'être par le passé, je crois.
Oui, bien effectivement, mais c'est sûr qu'il faut avoir une vision de comprendre les processus historiques, c'est-à-dire que le féminisme qu'on appelle libéral ou réformiste ou qui va se battre plus sur les effets de l'oppression que sur l'oppression elle-même, c'est pas par mauvaise intention non plus, encore une fois, c'est par nécessité historique à un moment donné. Puis c'est donc là qu'il y a une continuité à observer. Puis effectivement, en ce moment, une des visions à défendre au jour le jour, c'est de dire c'est pas justement, je parlais de socialisation, c'est pas une question de gêne que les gars et les filles sont pas pareils. C'est des années, je veux dire, à partir du moment donné qu'on est dans le ventre de nos mères, on se fait dire c'est un petit gars ou une petite fille, là, puis toutes nos interactions avec les gens sont basées sur la différenciation de sexe. Une des jokes qui me faisait rire, c'est si une personne est en train de se noyer, on va dire une femme se noie ou un homme se noie, quand ça n'a rien à voir entre les poumons et le sexe, c'est-à-dire que la différenciation de sexe est dans tous nos espaces, tout le temps. On ne va jamais être traité de la même façon. Puis c'est super important d'avoir cette vision-là, que c'est pas une question de nature ou de... C'est une question sociale, de façon d'organiser la société.
Puis c'est aussi là le patriarcat se trouve.
Ben exactement, en fait. C'est le fait de... tous les systèmes d'oppression, le patriarcat et toutes les autres, sont basés sur le fait d'ériger une différenciation en une différence et une contradiction fondamentale, puis d'en faire une question d'hiérarchisation. À chaque fois qu'on prend deux groupes sociaux puis qu'on les catégorise, c'est justement là que se fait une hiérarchie. Puis bon, ça, c'est depuis la nuit des temps, là. J'aurais pas de prétention historique à tout connaître, mais justement, en fait, Christine Delphi, qui est une féministe radicale matérialiste qui a été d'un grand apport en termes d'analyse sur la question du genre, elle mettait justement de l'avant que souvent, un des arguments qui va être donné, par exemple, si je dis, ou ce que tu disais tantôt, les petits garçons puis les petites filles sont pas si différents que ça, etc. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais là, il faut reconnaître la différence, faut pas la nier, etc. » Puis elle retournait cette situation en disant « C'est là qu'il y a une négation de la différence. Pourquoi est-ce que toutes les femmes, pour être femmes, devraient avoir les mêmes goûts vestimentaires, les mêmes attentes dans leur vie, les mêmes envies et les mêmes choses ?» C'est là qu'on nie la différence, entre les êtres humains, en fait, et leur volonté. Quand on réduit en disant que c'est avec l'argument de la nature, que c'est comme ça, puis que ça changera pas, c'est en faisant ces catégories fermées-là qu'on nie la pluralité puis la diversité du genre humain.
Oui, puis ça reste dans les représentations, ça me fait penser à une anecdote. Récemment, se déroulait une journée consacrée aux sciences, puis qu'ils voulaient s'adresser en particulier aux filles. Sauf au lieu de leur donner l'idée de ce que pourrait être la journée puis le dynamisme de l'étude scientifique, il y avait tout simplement une image d'une jeune fille en train de magasiner tu sais, des articles scientifiques. C'est vraiment... Puis elle avait tous les attributs d'une jeune fille qui s'adonne à la consommation abusive. Là. C'était un peu ridicule.
Mais en fait, c'est exactement de ça qu'il s'agit quand je parle d'affirmer qu'est-ce qu'on veut, puis c'est quoi de créer un autre imaginaire. C'est justement pour sortir de ces carcans, de ces imaginaires préfabriqués qui sont... parce qu'être libertaire, bon, ben, c'est aussi être anticapitaliste, mm-hmm. puis c'est aussi vouloir sortir de ces stéréotypes qui sont multiples là, et qui se reproduisent justement souvent. Justement, l'exemple que tu donnes illustre très bien... Cette dynamique-là de systématiquement, même quand on veut encourager l'appropriation des nouvelles technologies et de la science par les femmes, ce qui est en soi louable, mm-hmm. on se met à reproduire des stéréotypes, notamment de la fille qui magasine. Puis ces exemples-là, là, ils sont quotidiens, partout, omniprésents. Là.
Oui, dans le pavillon de science à l'Université de Sherbrooke, je les ai vus, ces annonces-là, puis je trouvais ça vraiment... Je veux dire, Marie Curie, elle n'allait pas faire du shopping. Là. C'était pas une fille de bourgeoise qui allait faire... c'était peut-être une fille de bourgeoise, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça occulte en fait la présence des femmes en science pour promouvoir en fait la marchandisation de la science. Parce que en même temps, l'éducation, les femmes qui magasine, t'as magasiné un bac, magasine ton bac en sciences, et puis en tout cas...
C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une analyse globale des oppressions multiples, c'est-à-dire pour pas... parce qu'à chaque fois qu'on décide de s'attaquer à une oppression puis qu'on oublie les autres, ben on les reproduit. Mm-hmm. Notamment si en tant que féministe, j'oublie une analyse anticolonialiste puis anti-oppression, ben c'est super facile... De reproduire des tendances colonialistes. C'est notamment une des grosses critiques qui est faite au féminisme radical, parce que le féminisme radical se base sur une analyse qui est tout à fait occidentale. Puis c'est sûr qu'au jour le jour, on est confronté à nos propres idées, puis à comment elles peuvent être récupérées puis utilisées contre d'autres femmes dans le monde.
Oui, oui, oui. Ben, peut-être pour terminer, à moins que d'autres personnes aient certaines questions, moi, je te demanderais tout simplement de t'exprimer puis de donner ton idée sur le 8 mars prochain. Quelles sont les cibles qu'on devrait dénoncer? Quelles sont les pratiques qu'on devrait scruter? Puis quelles sont les habitudes de vie qu'on doit, une fois de plus, dénoncer aujourd'hui, en 2009? Puis aussi celles qui sont depuis toujours dénoncées, mais qui tombent parfois dans l'oubli.
Ben, en fait, je vais retourner un peu ta question pour faire mon point sur aller au-delà de la dénonciation puis aller dans l'affirmation. Mmh. Pour moi, ce qui est super intéressant, notamment le 8 mars, c'est à Montréal, depuis quelques années, le collectif qui s'occupe de la manifestation du 8 mars, c'est les femmes de diverses origines. Puis je pense que cette année, elles ont battu un record justement dans l'affirmation de qu'est-ce qu'elles veulent, puisque le titre, la bannière de la manifestation, c'est « Contre l'impérialisme pour un nouvel ordre mondial ». Puis elles ont notamment fait des conférences toute la fin de semaine passée sur l'interrelation entre plusieurs luttes. Alors il y a des femmes autochtones qui sont venues, il y a une ex-prisonnière politique libanaise qui se bat pour les droits en Palestine, il y a des femmes de diverses origines et de plein de luttes sociales. Puis je pense que c'est ça qui est important de voir, c'est qu'on doit adopter des pratiques féministes dans toutes nos sphères. Puis ce qu'il faut arrêter de faire, c'est justement de séparer les luttes comme si elles n'étaient pas interreliées. Puis de quand on fait une dénonciation anti-impérialiste, on peut le faire d'une vision, avec une vision féministe. Les femmes féministes radicales sont pas juste là pour faire le travail sur la question de l'oppression des femmes, parce que ça, c'est aussi nous enlever du pouvoir, puis nous enlever des droits en tant que militantes, que toujours nous dire que nous, on devrait se concentrer sur ce qui nous concerne.
Ouais, ouais, ouais.
Quand, dans le fond, oui, on peut être des militantes dans toutes sortes de sphères politiques. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait une chose particulière à mettre de l'avant. Mais par exemple, au lieu de dénoncer, je vais saluer une initiative que je trouve vraiment intéressante. Le 8 mars, notamment, il va y avoir une conférence sur la visibilité lesbienne. C'est pas une lutte nouvelle, mais on dirait qu'il y a comme des vagues là, de réaffirmation aussi de ce courant féminisme, le féminisme lesbien, qui est pas juste lié à une pratique et une orientation sexuelle, mais qui est aussi lié à une vision du monde et à une vision des femmes indépendantes qui ont pas une femme n'a pas besoin d'un homme pour se valoriser, un être humain a besoin d'autres êtres humains pour se valoriser dans sa vie collective, mais justement sortir de ces schémas préétablis. Alors la chose que je dirais à dénoncer là, pour finalement répondre à ta question, c'est dénoncer nos propres œillères quand on veut pas aller plus loin puis voir plus loin dans nos pratiques politiques.
Ah ben c'est extrêmement gentil de ta part, j'ai beaucoup aimé notre entretien à la rage du peuple, puis j'espère que les auditeurs auditrices l'ont aimé tout autant. Puis c'était donc Blandine qui nous parlait de son implication en tant que militante féministe, le tout à la rage du peuple. Donc, je te dis tout de suite qu'on va mettre notre entretien en ligne, ben, en fait l'intégrale de l'émission, sur notre blog, le blog du collectif du 19 juillet, qu'on retrouve à l'adresse ucl-sherbrooke.blogspot.com. Puis, ça devrait se faire sous peu, donc on va pouvoir réécouter l'intégrale de l'émission sur notre site. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne émission.
Au revoir.
Merci, salut.
Au revoir.
Oui. On va aller faire un tour en musique avec Christelle Bazooka, qui est une satire, en fait, des chanteuses pop américaines. Donc, vous allez entendre la chanson « C'est une pute ».
Allez, on retrouve tout de suite Christelle Bazooka, la sœur du célèbre rappeur, pour son hymne au meilleur ami de l'homme, j'ai nommé la femme. Un message 100% macho, sans guacamole, c'est pour vous les ladies.
N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec et une garce.
C'est une pute.
Un coureur, c'est un jogger et une coureuse.
C'est une pute.
Un chauffeur, il conduit le bus et une chauffeuse.
C'est c'est une pute.
Un entraîneur, c'est un coach sportif et une entraîneuse.
Bah, c'est une pute.
Un homme à femme, c'est un séducteur. Une femme à homme,
c'est une pute.
Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne,
c'est une pute.
Un cochon, c'est un mec sale. Une cochonne,
c'est une pute.
Un salaud, c'est un sale type. Une salope,
bah, c'est une pute.
Un allumeur, ça allume le gaz. Une allumeuse,
c'est une pute.
Un masseur, c'est un kiné. Une masseuse,
c'est une pute.
Un maître, un instituteur, une maîtresse,
c'est une pute.
Un homme facile, c'est un gars sympa. Une femme facile,
bah, c'est une pute.
Un calculateur, un matheux, une calculatrice,
c'est une pute.
Un toxico, c'est un drogué. Une toxico,
c'est une pute.
Un bitch, un volet sur la plage. Une bitch,
c'est une pute.
Un Hilton, c'est un hôtel. Et Paris Hilton,
bah, c'est une pute.
Donc, j'espère que vous avez pris la chanson avec un brin d'humour. C'était une satire, c'était de l'ironie, bien évidemment. Puis, on va tout de suite continuer avec du Fela Kuti avant de clore l'émission.
On va aller écouter du Fela Kuti?
Oui, juste un peu.
Ah, OK. Après ça, on va avoir des demandes spéciales de la part des invités.
C'est ce qui fait le tour de l'émission d'aujourd'hui qui portait sur le féminisme pour justement la mise en contexte de la journée du 8 mars prochain. Je crois que Claudel, tu voulais nous réinviter à cette journée.
Ben oui, en fait, juste dire que il se passe quelque chose le 8 mars à Sherbrooke et puis la marche commence à 16h30 à l'Hôtel Dieu.
Donc, c'est un rendez-vous à tous et à toutes. Puis il y a Jean-Michel qui est avec nous, qui nous a partagé ses réflexions, puis la réflexion des autres aussi. Tu as une invitation à nous faire?
Absolument, j'aimerais inviter les auditeurs à venir à la soirée slam jeudi prochain. C'est au tremplin, c'est à compter de 8 heures, c'est à contribution volontaire. Alors j'invite tous les auditeurs à venir au tremplin jeudi prochain.
Et je tiens à le dire, ça vaut la peine. Puis nous, de notre côté, le collectif du 19 juillet, on vous invite.
Samedi prochain, dès 19h, au bar Les Beaux Dimanches sur la rue Dufferin, à Sherbrooke, il va y avoir le lancement du dernier journal de l'Union communiste libertaire.
Qui est en même temps le premier.
Oui, c'est ça, le plus récent, mais le premier. Ça va se passer à 19h. Il va y avoir une table de distribution avec des radiodocumentaires, des brochures sur différents thèmes. Tels que l'économie, l'histoire des révolutions et la lutte des immigrants sans papiers en France, etc.
Tout ça dans un contexte et un climat très relax et une belle invitation. Bref, si vous voulez jaser avec nous de l'anarchisme, puis il va y avoir d'autres militants qui vont être là, donc ça va être un
ça
beau
ça va
mélange.
D'ailleurs être toi le DJ.
Oui, 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 semblerait-il. Donc vous allez, vous ne serez pas trop... hors contexte de l'émission de radio. Puis moi, pour ma part, je vais vous inviter, dans le fond, pour la 13e journée internationale contre la brutalité policière qui va avoir lieu à 14h au métro Mont-Royal le 15 mars. Donc, dans le fond, je pense qu'il y a eu suffisamment d'événements cette année pour qu'on puisse légitimement dénoncer la brutalité policière.
Puis, soyez pas en retard.
Non, faut pas être en retard. C'est une manif qui, je crois, qui est traditionnellement très agitée. N'ayez pas peur. Plus on est, plus on a une certaine légitimité dans l'action. Puis, je pense qu'on peut se souvenir ce qui s'est produit avec Freddy Villanueva, ce qui s'est produit nombreuses reprises aux États-Unis. Le nombre de morts qui est rendu, je crois, 43 ou 45 dû au taser au Canada depuis l'introduction de cette arme-là. Le service de police, la GRC, qui fait des pressions pour que chaque agent puisse l'utiliser. Je crois que c'est un danger pour tous et toutes parce qu'ils l'utilisent de la mauvaise manière et en abusent, ce qui mène malheureusement à la mort. Donc, je crois que ça fait le tour pour l'émission de radio d'aujourd'hui.
Claudel, tu voulais rectifier ce que tu as dit tantôt?
Oui, c'est ça, je suis pas sûre. Là, c'est 13h30 la marche, puis un brunch à 10h30 aussi avant.
Oui, qui a lieu à la Chaudronnée sur Bowen Sud, si je me souviens bien.
Voilà.
Donc, j'invite les auditeurs, auditrices à laisser des commentaires aux animateurs de l'émission de radio La Rage du Peuple. Vous pouvez le faire en nous écrivant notre nouvelle adresse qui est
ucl.sherbrooke@causecommune.net.
Donc,
si vous avez des suggestions, des informations à nous passer.
Même des insultes, ça pourrait nous faire rire.
Ben oui, pourquoi pas. Oui,
puis vous pouvez aussi visiter également notre blog qui se retrouve à l'adresse ucl-sherbrooke.blogspot.com.
Et on vous dit à la semaine prochaine. On va vous laisser sur une demande spéciale d'une de nos invitées, Claudel. On voulait passer deux chansons. On va au moins certainement en passer une. On va aller écouter Decepticon avec le groupe Le Tigre.
Un groupe féministe.
brûlé.